Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph le 31 mars 1987.
Nous allons continuer de scruter l'évangile de Saint-Jean pour essayer de découvrir comment l'enseignement de Jésus. Je crois que c'est un disciple parfait, Saint Jean. Quand on parle du De Magistro, c'est ce que c'est que le maître et le disciple. Saint Jean est disciple bien-aimé. Ce serait très beau d'y penser par rapport au De Magistro. Est-ce que c'est vrai? Je crois qu'il n'y a pas eu dans l'histoire de l'humanité un disciple plus parfait que Jean. Pour nous, ça a des petites conséquences. La sainteté du disciple, Saint Jean, puisqu'il s'appelle disciple bien-aimé. Et c'est vraiment la sainteté du disciple. Alors peut-être, voyez, que les trois grandes dimensions de la sainteté de Saint Jean montrerait bien les grandes dimensions de la sainteté d'un disciple et les qualités dominantes d'un disciple. Perspicacité de l'intelligence. Alors le saint Thomas dit textuellement, un maître aime toujours mieux des disciples intelligents. Et comme on est tous intelligents, ne l'oubliez pas, parce qu'on a tous une modalité particulière d'intelligence. On n'a pas tous la même intelligence. Heureusement, ce serait terriblement ennuyeux. Mais on a tous une forme particulière d'intelligence qu'il faut découvrir. Et ça, ça fait partie du jugement d'existence. Découvrir comment notre intelligence peut atteindre plus facilement le réel. Selon l'expérience type qui pour nous est la plus expérience. Parce que ça, chacun d'entre nous, nous avons aussi une sensibilité différente au point de vue de l'expérience. Pour certains, l'expérience type, c'est l'expérience du menuisier. Hein, on en a des exemples. Du menuisier, du charpentier. Ça, c'est l'expérience. Pour un autre, c'est d'être apiculteur. Je vous ai dit, je rencontrais une fois un apiculteur dans les rues de Tours le soir. Je cherchais le Carmel. La première fois que j'y allais, je suis tombé sur un apiculteur. Et cet apiculteur, il m'a raconté des histoires. Hein. Il a terminé au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il était plus de minuit, en me disant, père, priez pour mes abeilles. Et pour moi, qui suis un pauvre pêcheur, mais c'était les abeilles avant. Donc c'était un véritable apiculteur. Parce qu'il s'effaçait devant ses abeilles, vous voyez. Et il avait cet amour extraordinaire de ses abeilles. Oui, parce qu'il disait tout le temps, aujourd'hui, avec tous les produits chimiques, les abeilles meurent. Alors, c'est affolant. On ne s'aperçoit pas qu'on est en train de déséquilibrer notre monde d'aujourd'hui. Il n'y a plus de vraies fleurs de tout le temps. Il y a l'aspect chimique qui passe devant. Alors, c'était une grande dissertation très longue. Mais je me souviens. Je me suis dit, il a un habitus, madame là. Il a un habitus de. Pour lui, c'est son expérience par où il rejoint le jugement d'existence. Et c'est bon, vous voyez. Parce que si vous prenez un brousse-poil et que vous essayez de chercher le jugement d'existence dans une expérience qui n'est pas du tout en code naturalité avec vous, mais vous n'y arriverez jamais. Tandis que si vous cherchez le jugement d'existence à partir d'une expérience où vous êtes en pleine code naturalité, ah, ça ira beaucoup plus vite. Mais ça fait partie de l'éducation. celui-là, orienté de ce sens-là. Il y a une espèce de maduduction qui est extrêmement importante. Alors, c'est possible qu'il y a des gens qui sont faits pour la critique. Alors là, ils ne trouveront jamais le jugement d'existence. Ils seront des intuitions, mais ils n'auront jamais. Parce que le primat de la critique fait qu'on ne découvre pas le jugement d'existence. Alors, il faut le savoir. On est très porté pour la critique. Alors, ayons une compensation. Parce que le jugement critique vous donne des relations, mais pas le jugement d'existence. Alors, si la critique devient première, vous voyez, on ne retrouvera jamais le jugement d'existence. Le jugement d'existence est au-delà de la critique. Il est malin, vous savez. Le jugement d'existence, il est au-delà de la critique. Vous ne pouvez pas critiquer le jugement d'existence. C'est extraordinaire, du reste. C'est ce qui fait comprendre ce que c'est que le réalisme. Mais si je justifiais le jugement d'existence par la critique, mais ce ne serait plus le réalisme. Le réalisme est incritiquable. Ça, c'est très intéressant de voir ça. Là, si vous ne pigez pas ça, mettez vos objections. Et on pourra attaquer, montrer que c'est pas juste. La critique ne fait pas découvrir le chemin des autres. La critique demeure dans l'intentionnalité. Tout le temps. L'intentionnalité et l'intentionnalité de l'intentionnalité rejoignez le réel, vous ne pourrez jamais. C'est la chose terrible. Quand vous commencez par la critique, vous ne rejoignez plus le réel et vous vous coupez complètement du chemin d'existence. Vous élaborez des théories, des lois. Oui, vous pouvez, mais vous ne rejoignez plus le réel. Et par le fait même, il y aura une carence du côté de l'amour. Ça va loin, tout ça. Vous savez, quand il nous a asséchés, il a fait que de fait, on ne peut plus rejoindre le réel. Et qu'on ne peut plus aimer. C'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences. Bon. Le disciple bien-aimé, perspicacité de l'intelligence, pureté du cœur, jeunesse. Est-ce que ce n'est pas les trois grandes qualités du disciple? Être intelligent, avoir confiance en son maître, ça c'est la pureté du cœur. Et puis jeunesse, comprendre qu'on doit progresser. Parce que si on ne comprend pas qu'on doit progresser, on ne peut pas être un disciple. Le disciple, c'est celui qui cherche toujours à aller plus loin. Parce que dès que vous croyez que vous êtes sur un haut plateau et que vous ne pouvez pas monter plus, c'est fini. Vous ne progressez plus. Il n'y a plus de jeunesse. C'est la critique. Il n'y a pas de jeunesse sans la critique. La critique, c'est la qualité du vieillard. Alors quand on est vieillard et qu'on est critique, ça va. Mais quand on est jeune et qu'on est critique, c'est ennuyeux. Parce qu'on est vieillard avant l'âge. Alors c'est gênant. Il n'y a plus cette espèce d'appétit, voyez, que donne la métaphysique. La métaphysique, elle vous donne un appétit de jeunesse extraordinaire. C'est là où on se rajeunit l'intelligence. Ça, c'est la métaphysique. Si tu restes ce qu'on doit mettre comme réclame, rajeunissement de l'intelligence, sans tomber dans le gagatisme. Parce qu'il y a des gens qui se rajeunissent par le gagatisme, tu vois. Tandis qu'on rajeunit l'intelligence par le point de vue métaphysique, parce que c'est l'être qui rajeunit l'intelligence. L'être ne vieillit pas. Il est le même depuis le premier moment où Dieu a créé des réalités. Il est toujours le même. C'est extraordinaire. Il ne vieillit pas. Le devenir vieillit. La critique, elle est vieille par nature. Elle naît vieille. C'est curieux. Tandis qu'au contraire, la métaphysique, elle a quelque chose d'éternel. Et le jugement d'existence permet de découvrir ça. Alors essayons de nous plonger. l'abbesse de Saint-Jean. C'est pour ça que Jésus l'aime, parce qu'il est jeune. Et il doit nous donner sa jeunesse. Il doit nous donner cette espèce de jeunesse qui fait que il n'y a rien de blasé pour nous. Il n'y a rien de blasé, parce qu'on peut tout le temps aller plus loin. Et c'est ça qui est merveilleux dans la parole de Dieu. Vous pouvez lire 1000 fois l'évangile de Saint-Jean.
Saisir les cas
situation limite. On est devant une situation limite, là. Et tout ça est enveloppé de la miséricorde du Christ. Vous voyez, les trois situations limites, vous les connaissez bien. La Samaritaine, l'enfant qui agonise, et l'infirme épicier de Bethsaida. Les trois situations limites. Et les trois situations limites de l'homme pris d'une façon concrète, comme toujours l'Écriture. L'Écriture prend l'homme d'une façon concrète. Or, l'homme d'une façon concrète, c'est la femme, l'homme et l'enfant. Ça, c'est concret. C'est pas du tout l'humanité. L'humanité n'est jamais en situation concrète. C'est l'homme concret qui est en situation limite. La situation limite de la femme, c'est de ne plus être aimé et d'avoir été abandonné 5 fois, au moins 4 fois. 5e, on ne sait pas, mais ça ne durera pas. Par des maris, ça c'est la situation limite. Réduite à la corvée d'eau en plein midi. Situation limite de la femme. Situation limite de l'enfant. Du tout petit enfant. C'est d'agoniser. Un enfant qui agonise, c'est effrayant. C'est effrayant, un enfant qui agonise. Vous voyez, Camus a très bien saisi ça. Et il ne faut pas seulement le saisir par Camus, mais il faut en avoir l'expérience. Et quand on voit un gosse qui agonise, c'est affolant. Et la mère à côté. Parce qu'un gosse ne dit pas son mal. Alors c'est encore plus terrible. Une grande personne, elle dit quand même quelque chose. Tandis qu'un gosse, il ne le dit pas. Un gosse qui agonise. Situation limite pour la famille. Parce qu'un enfant, c'est une promesse de vie. Et quand il agonise, situation limite. C'est très très beau, vous savez. Il y aurait là quelque chose de très très grand, même au plan purement philosophique, à faire. Les trois grandes situations limites de l'homme. La Samaritaine. L'enfant qui agonise. Et puis l'infirme à la visée de Bethsaida. L'infirme qui est infirme depuis 38 ans dans ce milieu. Et par le fait même, toutes les conséquences au point de vue psychologique. Parce qu'il est délabré, sa psychologie est complètement délabrée de cet homme-là. Ça se voit bien. Alors c'est beau de voir ça, vous voyez. Là, c'est l'intelligence de Jean. Il a saisi que Jésus regardait ses situations limites. Et il a fallu le 20e siècle pour qu'un philosophe parle de situations limites. C'était un médecin, Jaspers. Ça, c'est une chose très grande. Ouais, c'est pas un principe. Mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans toute la philosophie moderne. C'est d'avoir parlé des situations limites. Parce que ça prouve qu'on a le sens de la finalité. Parce que je crois que la situation limite, c'est lorsque le conditionnement devient un mur qui arrête de découvrir la finalité. Prenez l'exemple, tout simplement, de l'avalanche, de la neige. Pour moi, c'est l'exemple très net de la situation limite. Quand il y a des petits flocons de neige qui tombent, c'est très agréable. C'est très beau. Quand on est pris par une tempête de neige, c'est déjà beaucoup moins drôle. Et quand vous êtes sous l'avalanche, vous voyez, c'est la même réalité, mais en fonction d'un phénomène de rapidité, d'intensité. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que tout va avec une rapidité extraordinaire. L'humanité n'a pas changé beaucoup. Mais il y a un phénomène d'accélération. Et ce phénomène d'accélération fait que, très vite, l'humanité est en situation limite. Et pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ont moins de résistance qu'avant? C'est un fait. Affectivement. On est plus vite fatigué. Et on a plus de peine à se relever. Parce que l'humanité est en situation limite. Elle est usée, cette humanité. Elle s'use. Parce que tout va très vite. Alors que tout va physique, ils le savent d'une façon spéciale, en physique nucléaire. Ils disaient, les programmes sont tels qu'on n'a plus le temps d'assimiler. Alors il y a des phénomènes de rejet. Parce que c'est ça le phénomène de rejet, c'est quand on est en face justement de quelque chose qu'on n'a pas assimilé et qu'on vous gave. Alors, il y a un phénomène de rejet. Il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ce travers. Et il faut faire attention. Il y a la rapidité fatigue notre organisme plus qu'on ne le pense. Plus qu'on ne le pense. Pourquoi c'est fatigant d'aller en avion? Pourquoi, même si c'est climatisé? Pourquoi c'est fatigant d'aller dans le TGV? Pourquoi c'est fatigant d'aller dans une auto qui va très vite? Parce que c'est un rythme qui n'est plus le rythme humain. Tandis que quand vous êtes à dos de chameau, c'est le rythme humain par excellence, c'est ça. Là, vous êtes bien dans votre... Vous vous trouvez tout à fait bien. C'est reposant. Tandis que là, tout est comme ça. Mais c'est très important, ça. On est en train d'user l'humanité. On use l'humanité. On s'en aperçoit pas, parce que personne ne s'aperçoit de ça. Mais je suis sûr que ça joue beaucoup plus qu'on ne le pense. Situation limite. Alors, voyez, pour nous, la situation limite, prototype, cause exemplaire, elle est donnée dans l'Évangile par Jean. Et on voit Jésus face à ces trois situations limites. Le philosophe, quand il est en face d'une situation limite, il ne sait pas quoi faire. Que fait Jésus en face d'une situation limite? En face de la Samaritaine, il la réveille. La Samaritaine ne savait plus ce que c'était que le jugement d'existence. Elle ne savait plus du tout. Elle était perdue dans cette petite chanson. Corvetto, plein midi, on fait ça avec le plus de négligence possible. Ouf là là. Sans y penser, c'est tous les jours. Alors elle fredonnait son petit air, à la mode. C'est une situation limite de quelqu'un qui fait une corvée, sans même penser qu'on fait une corvée. Alors on va de corvée en corvée. Situation limite de l'enfant qui agonise pour le père. Et à l'égard de cet homme, et à l'égard de cet homme, Jésus lui pose simplement la question, veux-tu recouvrer la santé? C'est la plus grande condescendance de la part de Jésus en face de cet infirme depuis 38 ans qu'il est là. Cette proximité de Jésus. Et cet homme ne comprend même pas la présence de Jésus. Le jugement d'existence est complètement perdu. Les pneus sont tellement usés qu'ils dérapent tout le temps. Ça se voit très bien. Aucun jugement d'existence. Aucune adhésion. Quand Jésus pose cette question, il ne pense qu'à lui, pauvre homme. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à s'agiter. Parce que pour lui, il n'y a qu'une seule voie de salut. C'est se jeter dans la piscine. Depuis 38 ans, il en a tellement l'expérience. Et il a tellement raté qu'il n'y a que ça. Il ne peut pas y avoir d'autre chose. Vous voyez cette espèce d'entêtement de cet homme qui se voit constamment dépassé par un autre. Alors il s'attache à ça. Et pendant que moi j'y vais, un autre descend avant moi. Supplice de tentacle. C'est extraordinaire. Et Jésus lui dit, lève-toi, emporte ton grabat et marche. Moi, je trouve ça extraordinaire, comme dialogue. Devant cette situation limite, Jésus va directement relever, lève-toi. Cet homme n'était plus debout, n'était plus un être humain. Et Jésus lui redonne, vie, va ton fils, vie. l'esprit en vérité. C'est extraordinaire. Les réponses de Jésus, vous voyez. Je crois que là, il y a quelque chose de très très grand à saisir. Ce que Jean a saisi. Vous ne trouvez pas ça dans les autres évangiles. Cette pédagogie de Jésus à l'égard des situations limites de l'homme. Or, je crois, je vous l'ai déjà dit, il y a eu un professeur de philosophie de Rome qui a écrit il y a quelques années « L'humanité actuelle est en situation limite ». Je crois que c'est vrai. L'humanité actuelle est en situation limite. Parce que elle ne peut plus normalement découvrir sa finalité. Nous avons un privilège unique de pouvoir faire des études philosophiques en priant. Et donc, redécouvrir un rythme humain. Et à travers ce rythme humain, essayer de réveiller notre intelligence, de réveiller notre cœur, de réveiller notre foi, pour qu'elle ait tout son réalisme contemplatif. Et c'est ce que Jésus fait dans cette manière dont il reprend cet homme pour le réveiller. Alors, ce miracle, lève-toi, prends ton grappin et marche. Jésus dit ça le jour du sabbat. Vous comprenez bien que c'est pas le hasard. Volonté expresse du Christ. Le sabbat, c'est le jour de la grande miséricorde de Dieu pour les hommes. Et les gens n'ont plus qu'une pensée, qu'une seule chose, c'est de voir le nombre de pas qu'on peut faire le jour du sabbat, les gestes qu'on peut faire le jour du sabbat, et compte ça. Voyez, l'aspect canonique, juridique, qui l'emporte. Et on ne sait plus du tout ce que ça signifie. Je crois que le peuple d'Israël était un peu en situation limite quand est venu Jésus. Je crois. Ah, tout à fait différente de notre nôtre. Mais un peu en situation limite. Parce que le juridisme remplaçait la théologie. C'est très important de comprendre le sabbat. C'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est ça, la liturgie du sabbat. C'est Dieu qui vient vers les hommes. Et c'est Dieu qui réveille l'homme. Donc, c'est une grande miséricorde de la part de Dieu. Et Jésus fait exprès ce miracle le jour du sabbat pour ce pauvre type et aussi pour tous les autres. Pour qu'ils comprennent de nouveau ce que c'est que le sabbat. C'est quand même très important. Jésus a chassé les vendeurs du temple pour que le peuple d'Israël reprenne le sens du temple. Et Jésus fait le miracle le jour du sabbat pour que le peuple d'Israël, et spécialement les pharisiens, reprennent le sens du sabbat. Les deux grands conditionnements de l'homme. Le lieu et le temps. Et le lieu est consacré par le temple. Et le temps est consacré par le sabbat. Et donc c'est la grande pédagogie divine, ça. De reprendre l'homme selon ses deux conditionnements. Le point de vue du temps et du lieu. Ça, c'est admirable. Et on voit ça. Elle a regardé la différence. Alors ça, ce serait très intéressant de voir pourquoi Jésus d'abord sanctifie le temple, qui est au cœur de Jérusalem. Et pourquoi ensuite le sabbat ? C'est curieux, parce que nous aurions fait l'ordre inverse. Mais forcément, c'est Jérusalem. Le sabbat peut être vécu en dehors de Jérusalem, pas le temple. C'est évident. Et c'est pour ça que c'est d'abord le temple. Parce que la de l'Ouette Samaritaine, mais c'est extraordinaire, ça. On n'a jamais vu ça. Et c'est comme ça que Jésus brise les frontières. C'est comme ça qu'il dépasse le peuple d'Israël pour toucher la sœur séparée, la Samaritaine, qui est la pécheresse publique. Situation limite de la femme. Et Jésus met en pleine lumière cette situation limite de cette femme. C'est très étonnant. Comme regard du Christ sur la femme. Et comme regard d'amour de Jésus vis-à-vis de la femme. Je vois très bien saisi ça. C'est vrai, c'est admirable ce récit. L'officier de Capharnaüm, l'officier royal de Capharnaüm, ce petit Basileus, dans son domaine, il est un petit roi. Il a quelque chose. Mais c'est un païen. C'est pas tout le peuple d'Israël. C'est un païen. Jésus aurait pu l'écarter. Je suis venu pour les brebis d'Israël. Pas du tout. Jésus l'écoute. Mais il faut l'intervenir. Il faut un père pour ça. C'est curieux. C'est un père qui a touché le cœur de Jésus. C'est un père qui a touché et qui a fait que Jésus dépassait le peuple d'Israël, dépassait le cousinage des Samaritains et allait aux païens. Parce que les Samaritains avaient quand même la foi, c'était quand même un peuple religieux, tandis que les païens. Il faut la prière d'un père, l'intercession d'un père, ça c'est très très beau. Que la médiation du père permet le dépassement du peuple d'Israël et des Samaritains. Et je crois que ça c'est vrai, c'est ça que Dieu, c'est ça que le Père fait à la croix, la médiation du Père. Et puis, l'infirme à la piscine de Bethsaida, c'est tous les pauvres types, les excommuniés, les... Oui, tous ceux qui sont vraiment considérés comme rien du tout. Ils sont tous réfugiés dans un coin. Autour de cette piscine. Parce qu'il n'y a encore que Dieu qui les écoute. Et Dieu donne un petit signe de sa présence. Le bouillonnement de l'eau. On ne sait pas très bien. Superstition, religion, qu'est-ce que c'est exactement, hein? Qu'est-ce que ça représente exactement? On ne sait pas. Demandez aux meilleurs exégètes de Saint Jean. Ils savent rien, ça les ennuie parce qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce que c'est que ce bouillonnement? Alors ils expliquent ça matériellement. Non, il y a un fait. C'est qu'ils sont nombreux là. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Et qu'il y en a qui sortent et qui sont guéris. Alors qu'est-ce que c'est que cette guérison curieuse pour tous ces pauvres petits projetés? Et Jésus va là. Avec ce regard de Jean qui nous montre les éclatements, le dépassement par rapport au peuple d'Israël, la Samaritaine, l'enfant qui agonise. Et puis, cet infirme. Et ce dépassement se fait à partir des situations limites de l'humanité. C'est curieux. On se demande s'il ne faut pas des situations limites de l'humanité comme aujourd'hui pour que la parole du Christ puisse atteindre tous ces chefs religieux qui, devant cette situation limite, peut-être peuvent écouter le Christ. C'est très analogue à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ça qui est très curieux. On oublie ça, on oublie que l'humanité est en situation limite, on ne veut pas le regarder. Mais l'humanité est en situation limite. L'humanité ne sait plus ce qu'elle fait sur la terre. Ça explique des quantités de choses. Mais ce progrès de la science, indéfini, et qui détraque tout. Parce qu'on est en train de tout détraquer. Et on continue. Sans savoir du tout. Plus de finalité. Situation limite de l'humanité. Alors, devant la situation limite, la miséricorde de Dieu peut aller au-delà des limites. se touche pas si facilement. Elle attend la situation. Et quand l'homme est en face justement de cette situation limite à ce moment-là, alors la miséricorde de Dieu peut dépasser toutes les frontières. Et c'est ça la réponse de Dieu. C'est pour ça que c'est si grand. Ce début de l'évangile de Jean, vous voyez. Et Jean, je crois, saisit ça admirablement. Il a saisi comme un grand théologien l'or de la sagesse de Dieu. Parce que c'est le propre du théologien, c'est de saisir l'or de la sagesse de Dieu. Et alors, comme il a fait ce miracle le jour du sabbat, et que on est furieux contre lui, il leur répondit, mon père œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, j'œuvre. Voilà donc pourquoi les Juifs n'en cherchaient que plus à le tuer. Alors ça, vous soulignez très très fort, parce que Jean souligne que Jésus est en situation limite. Sauver des gens en situation limite, c'est se mettre soi-même en situation limite. C'est ça la miséricorde. Hein. Et alors on voit immédiatement que Jésus est en situation limite. Et Jésus est bien en situation limite. Voilà donc pourquoi les Juifs n'en cherchaient que plus à le tuer. Bon, quand on est poursuivi par des gens qui sont installés et qu'on est sur leur terrain, on est en situation limite. Mais une situation limite de David face à Saül. C'est vrai ça. Ces textes qu'on a lus qui sont des situations limites et qui sont admirables. Ici on voit ça. Jésus entre à partir de ce chapitre 5, dans une situation limite par rapport à son peuple. Voilà donc pourquoi les Juifs n'en cherchaient que plus à le tuer, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait encore Dieu son propre père, se faisant l'égal. C'est très très fort de voir l'interprétation donnée de la miséricorde du Christ. Cette miséricorde du Christ, c'est un viol par rapport au sabbat. Donc, c'est quelque chose qui lutte contre le sabbat. C'est ça, violer. C'est de la violence. Alors que Jésus agit avec une extraordinaire douceur et force le jour du sabbat. Vous voyez l'herméneutique, le changement des intentions. Il se dit l'égal de Dieu alors qu'il dit « Mon Père œuvre jusqu'à présent et moi aussi j'œuvre. » Mais ça, quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu peut le dire et qui la foi et de l'amour peut le dire. Mais chaque fois que Jésus parle du Père, oh, ils sont agacés. Ils ne peuvent pas supporter ça. Parce que cette parole de Jésus, mais oui, elle est normale. Le Père œuvre toujours, c'est rappeler Dieu créateur. Et moi aussi. Alors, en face de ça, Jésus va nous faire entrer beaucoup plus profondément dans sa relation vers le Père. Et c'est le premier moment des confidences. Parce que cette confidence est un secret que Jean a reçu, que Jean a gardé. Des petites têtes Marie. J'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait pas. Je ne crois pas que Jean pouvait tout de suite saisir ça. Tandis que Marie, elle, oui. Jésus prit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait celui-là, le Fils aussi le fait pareillement. Le Père, en effet, aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, pour que vous vous soyez étonné. Des œuvres plus grandes, hein, la croix. Le jour du sabbat, la croix. Et là, Jésus observera le sabbat. Il sera cloué sur la croix. Alors, voyez, cette première révélation, c'est la première révélation de ce qu'est la filiation. C'est pour ça que je crois bien que c'est Marie qui a gardé ses paroles. Je crois. Ça m'étonnerait beaucoup que Jean, au début, voyez, on est au terme du premier cycle. Je sais bien qu'il avait la perspicacité et l'intelligence, mais je crois fort, moi, que ce premier discours, c'est bien Marie qui l'a gardé dans son cœur. Jésus parle avec autorité. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. On accuse Jésus d'orgueil. Il montre qu'être fils de Dieu, c'est d'être dans une attitude de pauvreté radicale. Il ne peut rien faire de lui-même. Voyez la réponse à Dominem. Et en même temps, la situation limite. C'est assez extraordinaire. Situation limite de l'intérieur. Après tout, le mystère de l'incarnation, c'est la situation la plus grande, la situation limite extrême de l'humanité, puisqu'elle subsiste dans le Verbe. Et par le fait même, il ne peut rien faire de lui-même. Personne d'entre nous n'oserait dire ça. Situation limite d'une personne qui est dans un état de dépendance telle qu'elle ne peut rien faire de lui-même. Mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Donc dans un état de dépendance extrême, car ce que fait celui-là, le Fils aussi le fait pareillement. Et cette dépendance exprime l'amour. Le Père en effet aime le Fils. Tout repose sur l'amour. C'est une dépendance en l'amour. Plus on aime, plus on accepte d'être dépendant. Plus on aime d'être dépendant, plus on désire être dépendant, plus on va loin dans la dépendance. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Oui, les secrets de son cœur. Tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes encore que celles-ci, pour que vous soyez étonnés. C'est-à-dire que vous sortiez de votre bêtise. C'est ça que ça veut dire, hein. Vous croyez connaître les œuvres de Dieu, mais vous ne les connaissez pas du tout. Soyez un petit peu dans l'admiration des œuvres de Dieu. Et comprenez un tout petit peu ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Vous savez, le ronron, c'est comme ça que Dieu agit, on le sait bien. On croit que parce qu'on possède la loi, qu'on sait comment Dieu agit, mais pas du tout. Mais ça va très loin, cette affirmation de Jésus. C'est le premier grand discours de Jésus face à la très sainte Trinité. C'est pour ça qu'il est si grand. Là, vraiment, Jésus nous fait entrer dans sa contemplation. Il nous montre sa contemplation. Mais là, c'est vraiment le sens mystique. Vous voyez ça, sens littéral, historique. Vous êtes en plein dans la relation de la filiation à l'égard du Père. C'est directement. Et c'est un lien d'amour et un lien de communication des secrets. richesse qui est propre à l'égard de Dieu, c'est l'adoration. Donc, on honore vraiment le Père que quand on l'adore. Et alors, la parole de Jésus est très très forte. Pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ça, c'est la révélation pratique de cette divinité. Là, Jésus montre qu'il est Dieu. Et voyez, ça c'est la réponse, là encore, très directe. Il s'est dit l'égal de Dieu. C'est pas égal, il est Dieu. Et ça, c'est la réponse de Jésus. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alors ça va encore plus loin. Vous prétendez adorer le Père, et bien vous ne pouvez pas adorer le Père sans adorer le Fils. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, alors le troisième moment, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit, celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis, quelle vient l'heure, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui entendront, ceux qui auront entendu, vivront. De même, en effet, que le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné pareillement au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et lui a donné pouvoir pour exercer le jugement, le discernement, parce qu'il est fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, parce qu'elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ils sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront commis le mal pour une résurrection de condamnation. Ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint. Je ne puis, moi, rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement, à moi, est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc là, c'est le grand discours de Jésus qui montre sa contemplation d'amour. Montre combien il est lié intimement au Père et combien ce mystère d'intimité va loin, puisque celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Ça va très loin, ça. Jésus montre que depuis qu'il est là, dans son mystère de l'incarnation, il n'y a plus qu'une seule voie pour aller vers le Père. Et cette voie, c'est lui. Et c'est l'honorer, donc c'est l'adorer. Reconnaître qu'il est Dieu.